Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde.
Mangoto yai, yai pate, kolo satyu.
Écoute les bruits du monde. Les bruits du monde par principe actif. Par principe actif.
Nous sommes maintenant avec Michel Corignan, conteur professionnel et directeur artistique pendant 21 ans du festival de contes de Baden qui s'appelle Passeur d'Histoire. Bonjour à vous, Michel.
Bonjour.
On est également avec Géraldine, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pour commencer, Michel, si vous voulez bien revenir sur cette appellation conteur professionnel, qu'est-ce que ça implique pour vous? Qu'est-ce que vous mettez comme sens derrière ces mots conteur professionnel?
Conteur professionnel, le premier sens professionnel, ça veut dire qui vit du conte par rapport au conteur amateur qui fait ça en plus d'un autre travail, d'une retraite ou de... Voilà, donc c'est la différence essentielle en ce sens que ça peut être des conteurs amateurs qui peuvent être meilleurs que certains professionnels voilà, c'est pas un jugement de valeur au départ sauf que quand même conteur professionnel, normalement ça veut dire qu'on y consacre un peu plus de temps à travailler des contes, à travailler des spectacles, à travailler voilà, on a une, théoriquement, je dis encore théoriquement parce que bon, c'est pas forcément une règle générale, théoriquement c'est quand même des gens qui ont plus approfondi le conte et ce qu'est le conte et la façon de conter, etc. quoi. Voilà.
Et au niveau de l'évolution de la place du conteur dans la société, on imagine que du coup, avant le conteur avait une autre place dans la société. Ou, enfin, selon vous, est-ce qu'il y a vraiment une évolution? Et puis, quelle est la place vraiment du conteur aujourd'hui au sein de la population?
Oui, il y a une grosse évolution. Parce que bon, le conte, la tradition orale existe depuis que l'homme s'est parlé, sans doute. Donc les histoires, les contes sont quand même le conte qui sont la propriété de personnes, qui sont des créations collectives d'un groupe social, se sont transmis pendant des siècles et des millénaires uniquement de bouche à oreille, par la parole. La tradition orale de ce type a existé en Europe, en Bretagne, enfin puisque c'est à peu près les mêmes dates, hein, jusqu'au grosso modo entre les deux guerres mondiales. Et là, la tradition orale s'est pratiquement arrêtée à ce moment-là. Bon, pour un tas de raisons que je ne connais pas toutes, changement de société, etc., guerre... Mais on a eu la chance d'avoir, entre autres, quand même pendant 19e siècle, début 20e, généralement en Europe, bon, je parle plus de la Bretagne que je connais mieux, donc un collectage très très important de contes dans le pays bretonnant et dans le pays gallo, puisqu'en Bretagne il y a les deux langues. Dans le pays bretonnant, entre l'Uzel, vers les Côtes d'Armor, dans les Côtes d'Armor Finistère, un peu, le Bras, la légende de la mort, il y a eu Cadix dans le pays Vanté, pour citer que les principaux, parce qu'il y en a eu quand même bien d'autres. Et la tradition orale s'est relancée, disons, dans les années 70 en France. sous l'impulsion de quelques conteurs qui s'y étaient remis, je pense à Michel Hindenock, je pense entre autres évidemment, le nom va m'échapper, le directeur du Clio qui vient de prendre sa retraite, là. Voilà, une poignée de conteurs, disons, qui a voulu relancer la tradition orale, et il semblerait que ça a correspondu à une attente, même si elle n'était pas exprimée, et à un besoin, puisque depuis les années 70, c'est quand même pas si vieux que ça, ça fait même pas 50 ans, le nombre de conteurs, le nombre d'événements autour du conte a carrément explosé. Quand j'ai commencé à compter, moi, il y a 25 ans à peu près, on disait qu'il y avait autour de 900 conteurs professionnels en France, je crois, si ma mémoire est bonne. Maintenant, je ne sais pas combien il y a, mais je dirais 2000, 3000 peut-être, quoi. Alors, pendant tout un temps, la demande a suivi. Donc, le nombre de compteurs et demandes s'était augmenté de façon régulière. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu quand même plus de compteurs que de demandes. Donc, moi, je sais, quand j'ai commencé, j'ai eu mon statut d'intermittent très, très vite, parce que, alors que j'étais connu ni d'Adam ni d'Ève, j'ai fait... J'ai commencé à tourner dans les écoles, j'ai monté des événements ici tout seul dans mon coin, des balades comptées, où je faisais la publicité, les entrées et les comptes. Et donc, j'ai commencé comme ça, mais ça a été très très vite. Maintenant, je pense que pour les jeunes qui démarrent, c'est plus difficile, un petit peu, sûrement. Parce qu'il y a eu aussi quand même un peu le compte... Il y a une tendance actuelle de passer du conte tel que du conte traditionnel, disons, au conte spectacle. Donc, après, chacun a son interprétation, chacun a son. Moi, j'ai fait des spectacles de conte, plutôt de récits de vie d'ailleurs, mais autrement, moi, je préfère le conte, conte à voix nue, comme disait une conteuse, Annie Kiss. Vieille conteuse, mais qui était aussi au renouveau du conte. Là, à peu près, quoi, grosso modo.
Du coup, donc la tradition orale a été relancée, etc. Moi, j'avais plutôt une image du conte d'avant, dans les veillées, etc. Maintenant, on est plus sur un conte spectacle, comme vous l'avez dit, où on fait des festivals, on crée des événements autour du conte. Et est-ce que, du coup, il y a un public qui est toujours potentiellement le même, ou est-ce que c'est plutôt varié et on arrive à accueillir plusieurs types de publics dans ce genre d'événement?
Oui, déjà, c'est vrai que, la tendance compte spectacle, beaucoup de festivals, tout ça, mais l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on peut compter partout. Moi, j'ai compté, j'ai compté dans un bus, j'ai compté en prison, j'ai compté dans un bateau, j'ai compté en forêt, j'ai compté... Il y a besoin de rien, d'aucun... Voilà, on a la voix, et puis c'est tout, quoi. Il y a quand même toujours... un peu le cliché dans la tête des gens que le conte, c'est pour les enfants. Mais il se trouve que, par exemple, le festival de Baden qu'on a créé en 97, petit à petit, on a vu le public évoluer, et on a vu beaucoup, beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'est ça le conte !» Donc, il y a un public, il y a certainement un public pour le conte, et qui viennent... vraiment pour le conte, même si c'est pas du conte spectacle. Pendant un festival, on fait plein de choses, on fait des balades contées, on fait un conte dans un chantier ostréicole, dans une serre horticole, enfin, on le transporte partout, et ça reste quand même, je crois, il y a un véritable public. Nous, on le sent bien ici. Alors, il y a la difficulté, comme un peu tous les spectacles, c'est d'attirer les tranches d'âge, 20-40 ans. Bon, ce qui est compréhensible aussi, parce que c'est l'âge où les gens ont des emprunts sur le dos, des enfants petits, etc. On est un peu plus coincé souvent à ces âges-là. Mais vraiment, ça s'adresse à tout public.
Je voulais revenir moi sur comment ça vous est venu cette envie de compter et puis de devenir compteur, ensuite d'en faire un métier. Est-ce que c'est parce que quand vous étiez petit, par exemple, vos parents ou vos grands-parents vous racontaient eux-mêmes des histoires? Comment ça vous est venu à un moment le déclic? Tiens, moi aussi j'ai envie de raconter des histoires.
Ça, c'est une question qu'on me pose souvent et qui m'embête toujours. Voilà. En fait, non. Quand j'étais enfant, donc, je n'ai jamais entendu de conte. Je suis né, quand même, ça fait un petit bout de temps. C'était en 1947, donc dans un petit village rural dans le centre Bretagne, dans une petite ferme. Donc il y avait encore la tradition des veillées où on allait veiller chez les uns chez les autres, entre autres autour du Nouvel An. Mais il y avait déjà plus personne qui comptait. Et moi j'étais, mon premier livre de contes dont je me souviens très bien, j'étais gamin, c'était les histoires des contes de Perrault avec Blanche-Neige, etc., le petit poussé. Et voilà, donc après, moi, j'ai fait plein d'autres métiers. J'ai été animateur, après j'ai été maraîcher. Quand j'étais animateur, j'ai créé un spectacle avec un ami de, poésie, c'est un grand mot un peu, mais poésie, chanson. Donc on a tourné un petit peu, ça m'a donné vraiment l'envie du spectacle. Et puis, donc, quand j'ai arrêté mon activité maraîchère et horticole ici... c'était une envie que j'avais quelque part au fond de moi, puis je me suis dit quand j'ai arrêté, j'avais droit à une formation de reconversion, donc j'ai choisi une formation en guide animateur patrimoine, ce qui m'a permis de mettre ça en place en 6-7 mois, quoi, de travailler sur le compte. J'ai débrouillé pour avoir un directeur de stage qui était un compteur, et puis, après, je me suis lancé. J'ai eu la chance aussi, moi, quand j'ai commencé, je connaissais de réputation, de nom, un vieux conteur qui habitait à 30 km d'ici, à peu près, qui s'appelait Jude Le Paboul, qui était un ancien horticulteur aussi, d'ailleurs. Et bon, il est mort, ça fait une dizaine d'années, Jude, maintenant, et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec lui au début. D'une part, un peu sur les comptes, sur la façon de compter, puis surtout sur le sens du compte. Il m'a beaucoup parlé du sens du compte, et bon, Jude, je le considère un peu comme mon maître de parole, même si souvent on s'engueulait, parce que c'était pas un caractère évident, mais on se réconciliait toujours autour d'une bouteille de rosé.
C'est important.
Bonjour, Berlin, la grande zèbre, ben, ce galette, la 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 famille enfin en fait. Fille sur un mesille, près du gari de oué. Car on aime dit un yéwan, da la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la le pouvoir de l'oralité, qu'est-ce que vous mettez derrière ça, je sais pas, en termes de transmission, de ce que se racontent les hommes les uns aux autres au travers du conte sur leur histoire du monde qui les entoure. Enfin, quel sens vous mettez derrière toutes ces idées-là?
Alors, c'est vrai que le conte, moi, je crois que c'est quelque chose de très, très, très important. Très important puisque le conte, ben, il est né un petit peu, je pense, pour répondre aux interrogations des hommes qui comprenaient pas pourquoi il y avait un soleil, une lune, la mer était salée, qui comprenaient pas, donc ils créaient des histoires un peu peut-être pour calmer leurs angoisses, peut-être un petit peu pour donner un sens, une explication qui n'était pas rationnelle mais qui était Mais le conte, je crois que c'est vraiment quelque chose de profond. Il n'y a pas de conte qui est anodin. Et moi, je pense que nous, conteurs, on a quand même une responsabilité là-dedans importante. Pas d'apporter une morale, pas d'apporter... ça, pour moi, le conte n'a pas de morale, à part les fables, mais autrement, c'est n'a pas de morale. Mais... vraiment de pas trahir le conte, parce que c'est une histoire qui nous appartient pas, qui appartient à l'humanité. Bon, bien sûr, on peut la travailler, la traduire avec des mots d'aujourd'hui, avec le langage d'aujourd'hui. C'est quand on lit un conte écrit au 19e siècle, c'est une photo de ce conte à ce moment-là. Si encore il a été retranscrit plutôt correctement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais voilà, donc c'est vraiment... Jude, justement, le vieux monsieur, il me disait, écoute, Michel, quand on compte, on est des montreurs d'images. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup, le compte, c'est sur l'image. Et c'est fabuleux, enfin, moi, je trouve ça fabuleux quand on compte et qu'on embarque un public, qu'on les voit, on les amènerait n'importe où, quoi, quelque part. Quelquefois, c'est... Et là, j'ai fait un... J'ai eu un beau compliment là, la semaine dernière. Je faisais une balade contée là, et quelqu'un m'a dit à la fin, Michel, quand tu comptes, dès que tu commences à parler, tu transmets des émotions. Ça, je trouve que bon, c'est un beau compliment qu'on m'a fait, j'espère. Parce que voilà, on est des passeurs un petit peu, quoi. On n'est pas propriétaire de l'histoire, du moins je parle des contes traditionnels, parce que bon, il y a des conteurs qui font des créations sorties de rien. Bon, bah, après c'est le chacun fait ce qu'il veut, ce qui. Mais moi, je crois que c'est ça. C'est un métier fabuleux, parce que moi, j'ai des spectacles à partir de tout petit, à partir de la crèche, 18 mois à peu près, et puis jusqu'aux maisons de retraite. Là, c'est plus dur quelquefois. Mais bon.
Pourquoi c'est plus dur les maisons de retraite?
Ah ben bah, déjà bon. Déjà, il faut parler fort. Hein, qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Moi, je comprends rien à ce qu'il dit. Bon, c'est l'heure du goûter, hein, maintenant. Voilà, enfin, pas toujours. Hein. J'ai eu des belles expériences aussi. J'ai eu des belles expériences en maison de retraite, mais plus en foyer logement. Quoi, parce que maintenant, l'âge moyen d'une maison de retraite, c'est près de 90 ans bientôt. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi, mais voilà, je veux dire, c'est pour tous les âges. Quoi. On s'adresse à tous les âges avec pas forcément les mêmes histoires. Avec les tout petits, on va pas se lancer dans un conte merveilleux, mais c'est juste des petites histoires, des petites comptines qui est un peu la base de la tradition orale, quoi, quand même. La tradition orale, ça commence, je pense, avec le bébé dans les bras de sa mère et la petite bête qui monte et ce genre de petits jeux, quoi. Et de comptines après, voilà, c'est là que ça commence.
Du coup, vous parliez aussi du patrimoine. On retrouve beaucoup de compteurs dans les offices de tourisme, par exemple, sur des balades comptées, sur des choses qui sont organisées autour du patrimoine du tourisme. Et est-ce que, du coup, selon vous, ça donne une... Vous parliez d'image aussi. Ça donne une image du territoire sur lequel on est. On raconte les histoires, les anciennes histoires du territoire sur lequel on est. Est-ce que ça a un sens pour vous, ou est-ce que pour vous c'est plus universel que ça?
Oui, c'est vrai que ça peut avoir une histoire, mais un conte, j'ai des contes, je sais pas, par exemple, je pense à un conte de Moulin, qui a été collecté à côté de Vannes, ici, par François Cadic au début du XXe siècle. Si je raconte cette histoire, c'est pas dans le Gard, à côté d'un moulin, l'histoire se sera passée dans le Gard à côté du moulin, quoi. Évidemment, c'est pas le conte. Pour ça, le conte est absolument intemporel, je dirais, et n'a pas de lieu précis. Alors, c'est vrai que chacun on l'habille plutôt dans la région où il est raconté. Bon, maintenant, c'est différent de ce qu'on peut appeler les légendes, comme les légendes arthuriennes, enfin, qui sont mises dans un endroit, dans un lieu, et puis, mais je sais pas, dans une forêt, bon, c'est vrai qu'on a des histoires d'arbres, de forêts qui sont universelles aussi, quoi. Mais le conte en lui-même, d'ailleurs, c'est assez extraordinaire qu'on retrouve les grands thèmes de conte, genre Cendrillon, tout ça, on les retrouve partout, quoi, dans le monde entier, sous des versions différentes, sous des...
On a oublié de le mentionner depuis le début de cet échange. On est chez vous. Alors, on n'est pas tout à fait au Bonneau. Vous nous corrigez, hein, d'un point de vue géographique. Et vous me voyez peut-être venir. Ça vient avec le prochain thème autour du festival que vous avez porté pendant 21 ans. Et puis, on amenait cette question-là autour du lien potentiel avec le territoire. Donc, on est en Bretagne. Où exactement? C'est vous le spécialiste de là où nous nous trouvons?
Alors, c'est vrai que moi, j'habite le Bonneau, sur la commune du Bonneau, dans la campagne, mais je vis plus près de Baden, et toute ma vie, les enfants étaient à l'école à Baden, toute ma vie associative a été sur Baden, donc c'est pour ça qu'on a créé ce festival sur Baden, avec des amis de Baden. Donc, on est en Bretagne Sud, donc la région du Golfe du Morbihan, qui est quand même un des plus jolis coins du monde, on ne peut pas dire le contraire. Il faut bien le dire.
Pas le nier.
Non, mais qui est une très très belle région où la terre et la mer se confondent, se mélangent. Et c'est vrai que c'est une région assez porteuse. Quand tu fais des balades comptées autour du golfe, c'est plus facile de créer la magie que dans une salle de cantine, quoi. Parce qu'il y a... Il y a la lumière, il y a les paysages, voilà. Donc, mais après, bon, il se trouve que ce festival est né sur Baden parce que c'est avec des gens de Baden et que on a commencé donc tout petit. On était trois ou quatre bénévoles au début, la première année. On n'avait pas un sou dans la caisse. Si on avait 6000 francs. On a fait un festival sur 3 jours. On avait à peu près déjà signé des... Parce que ça a toujours été des professionnels qui sont venus compter pendant le festival. Donc on avait 6000 francs en caisse. On devait avoir pour 15000 francs de cachet, de contrat de signé. J'étais malade. J'ai fait, bon, tiens. J'ai dit, comment on va faire pour les payer? Puis il se trouve que dès la première année, bon, on a eu le soutien de la presse locale, beaucoup, tout ça. Donc on a fait 1000 entrées sur les 3 jours, 1000 entrées payantes. Donc on a bouclé notre budget sans faire de bénéfices, mais sans faire de pertes. Ce qui fait qu'on a pu faire un deuxième et puis un troisième. Et petit à petit être reconnu par les pouvoirs publics. Alors on est je pense, d'après les échos que j'ai, on doit être un des seuls festivals qui n'ait pas de baisse de subvention, ou du moins tout à fait à la marche, quoi, parce que aussi, donc, on s'autofinance quand même pour un tiers avec les entrées, donc ça s'appelait bien pouvoir public. Quoi. Et puis voilà, puis qu'on est tous bénévoles dans cette affaire, donc on a relativement petit budget. Là, actuellement, on est autour de 45 000 euros de budget pour l'association, pour le festival. Donc, on a creusé un peu, quoi. C'est un travail aussi de territoire, hein, parce que on a commencé donc uniquement sur Baden, et puis à la demande, souvent à la demande des mairies aux alentours, ah, il faudrait faire quelque chose chez nous. Donc, on est arrivé maintenant à travailler sur 10 communes du pays de Vannes. Donc, bon, l'essentiel restant quand même le centre fixé sur Baden. Et on a eu, dès le départ, on a vu les buts un peu de notre festival avec les copains qui l'ont lancé, c'était donc promouvoir la littérature orale, enfin promouvoir le patrimoine oral et faire des échanges de culture avec, donc dès le premier festival en 97, il y avait des conteurs du Québec, il y a eu une conteuse qui était argentine, enfin qui vit en France mais qui est d'Argentine. Et dès le deuxième, il y a eu d'Afrique. Et puis voilà, on a toujours favorisé cet échange de culture, de patrimoine. Moi, je sais que quelquefois, j'ai entendu dire qu'un jour, une dame à Baden qui m'a pas dit directement à moi, j'aurais été trop content, mais qui a dit à quelqu'un qui est, ah, je me demande pourquoi ils font venir tant que ça de noir aussi au festival de Baden, comme s'il n'y avait pas assez de Français pour compter. Enfin, voilà. Mais donc moi je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, le conte c'est quand même une passerelle entre les cultures, quoi, une passerelle. Moi j'ai souvent l'occasion d'aller en Afrique, mais voilà, je vois l'engouement qu'il y a pour les contes, même si c'est souvent dans une population assez pauvre. Bon, je vais au Congo, Brazzaville, donc c'est pas des gens qui souffrent de la faim, grosso modo, hein. Presque tout le monde mange à sa faim, même si c'est beaucoup de manioc. Mais même s'ils n'ont rien, dès qu'il y a une soirée conte, ils viennent, quoi. Là, c'est un vrai échange. En juin dernier, j'étais au Congo là, pendant 15 jours et j'ai collecté un vieux monsieur qui est le père, papa d'Abdon, qui est le créateur et le directeur du Festival du Congo. Et j'ai passé des heures avec son papa à l'enregistrer. Il m'a donné des contes. C'était un grand moment de bonheur.
Dans ces échanges de culture, justement, avec des conteurs venus, par exemple, d'Afrique et plus précisément du Congo ou d'ailleurs, est-ce que les histoires qui se racontent, elles ont des liens entre elles? Est-ce que, par exemple, on retrouve des points communs, des personnages, certains animaux ou certaines mises en scène? Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut faire des liens comme ça entre des contes venus, par exemple, de Bretagne et des contes venus du Congo ou d'ailleurs?
Oui, on peut faire. Bon, il y a toujours un peu, quand même, on retrouve les mêmes personnages, même sous des noms différents. Là, Papa d'Abdon, mois de juin, il m'a donné un conte que j'ai travaillé, que j'ai dit à ma manière pour la clôture du festival de Baden cette année. Là. Il y a toujours une espèce de personnage qui est une espèce d'ogre, par exemple, dans ce conte-là. Quoi. Il y a toujours des... donc chez nous, il peut y avoir des sorciers, des guérisseurs. En Afrique, ce sera le féticheur. J'ai un ami conteur amérindien du Québec. Il raconte un conte qui est l'histoire de Cendrillon, pratiquement. Quoi. Enfin, c'est la fille qui est délaissée, brûlée par ses sœurs avec de la cendre chaude et tout ça. Enfin, le but, c'est de découvrir le chasseur invisible, et celui qui pourra le voir se mariera avec lui. Quoi. Voilà. C'est pas un soulier de verre, mais c'est évidemment, elle arrive à découvrir le chasseur invisible.
Et on a parlé tout à l'heure de la place du conteur dans la société d'aujourd'hui, enfin de la place du conte et du conteur. On vient d'aborder plutôt les liens entre les différents contes selon les pays. Est-ce que la place du conte, elle est différente dans la société, dans une autre société que notre société occidentale, dans les autres pays que vous avez pu, où vous avez pu aller?
Oui. Est-ce que c'est différent? Il y a des différences. L'Afrique, par exemple, il y a finalement l'Afrique, le Congo, hein, Congo-Brazzaville, donc j'entends, c'est pas le Kinshasa, c'est pas l'ex-Zaïre, c'est le Congo-Brazzaville. Dans les villes, c'est à peu près une situation semblable à ici, c'est-à-dire que dans les villes, il n'y a plus de conteurs traditionnels. Donc les conteurs que je connais, africains, qui sont venus ici, ce sont des conteurs qui ont retravaillé le conte. Mais par contre, la tradition orale reste beaucoup plus vivante quand même dans les petites villes ou dans les villages. Donc souvent les conteurs sont... Il y a un lien direct entre leurs parents, leurs grands-parents qui vivent dans le village. Et autrement, le Québec, ça a été un peu une histoire semblable à la nôtre, où le conte était un peu tombé en désuétude. Québec, c'est un peu compliqué parce que donc il y a le conte européen venu avec les immigrés, il y a le conte amérindien qui existe là-bas depuis beaucoup beaucoup plus longtemps. Mais voilà, le conte européen au Québec, c'était les bûcherons, la tradition pendant l'hiver, et maintenant c'est aussi les festivals, il y en a beaucoup. Au Québec, c'est un peu spécial. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes conteurs aussi. Je trouve qu'il y a une déviance un peu au Québec à la suite de Fred Pellerin, qui raconte ses histoires d'enfance et qui fait rire et qui est très, très doué, je trouve. Et voilà, tous les jeunes conteurs québécois qui veulent suivre ses traces ne sont pas forcément des Fred Pellerin. Et autrement, oui, il y a d'autres pays. J'ai été dans pas mal d'autres pays, mais pas assez longtemps. J'étais au Vietnam, par exemple, dans un festival, mais j'ai demandé s'il y avait des conteurs, s'il y avait des contes. Tous les gens qui m'ont dit non, on ne connaît pas. Mais dans tous les pays, que ce soit... Je parle qu'en français, donc je vais souvent en Autriche au lycée français. Je sais qu'il y a des conteurs autrichiens, en Allemagne il y en a, enfin, en Angleterre il y en a, dans les États-Unis, l'occasion d'aller en Guyane, donc il y a beaucoup de conteurs amérindiens. aussi, et puis des Bushinagés, donc les Noirs marrons, les descendants d'esclaves, et, enfin, et les Créoles. Donc je crois qu'il n'y a jamais eu de société sans compteur, même si dans certains pays, peut-être ça a repris plus vite que dans d'autres, ou ça a été plus occulté dans certains que dans d'autres. Mais c'est un phénomène de société, je crois que toute société a eu ses mythes et ses contes.
La vieille, elle avait vu que le vieux, il voyait plus, mais le vieux, il voyait bien, la vieille, il voyait rien. La vieille, elle avait vu que le vieux, il voyait plus, mais le vieux, il voyait bien, la vieille, il voyait rien.
Mon père n'avait fille que moi, le vieux, il voyait bien, la vieille, il voyait rien.
Mon père n'avait fille que moi, le vieux, il voyait bien, la vieille, il voyait rien.
Quand sur la mer, il m'envoyait, la vieille, elle avait vu que le vieux, il voyait plus, mais le vieux, il voyait bien, la vieille, il voyait rien.
La vieille, elle avait vu que le vieux, il voyait plus, mais le vieux, il voyait bien.
Encore sur la mer, il m'envoyait. Le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Encore sur la mer, il m'envoyait. Le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Le marinier qui m'y menait, la vieille avait vu que le vieux voyait plus. Mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
La vieille avait vu que le vieux voyait plus. Mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Le marinier qui m'y menait, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Le marinier qui m'y menait, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Il devint amoureux de moi, la vieille elle avait vu que le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
La vieille elle avait vu que le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Il devint amoureux de moi, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Il devint amoureux de moi, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
À chaque fois qu'il me disait, la vieille elle avait vu que le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
La vieille elle avait vu que le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
À chaque fois qu'il me disait, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
À chaque fois qu'il me disait, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
La mignonnette embrassait moi, la vieille elle avait vu que le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
La vieille avait vu que le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
La mignonnette embrassait moi, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
La mignonnette embrassait moi, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Oh non, monsieur, je n'oserais, la vieille elle avait vu que le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
La vieille elle avait vu que le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien.
Si mon papa le savait, le vieux il voyait bien que la vieille voyait rien.
Car si mon papa le savait, le vieux il voyait bien que la vieille voyait rien.
Fille battue, ce serait moi, la vieille elle avait vu que le vieux il voyait plus, mais le vieux il voyait bien que la vieille voyait rien.
La vieille elle avait vu que le vieux il voyait plus, mais le vieux il voyait bien que la vieille voyait rien.
Par principe actif.
Oui, on a abordé la question du, enfin vous, Michel, vous avez abordé la question du collectage. Vous disiez que vous en faisiez également. Comment vous travaillez, avec quelle intention, et puis quelle démarche? Comment vous travaillez cette histoire de collectage? Qu'est-ce que vous allez chercher, et par quel procédé?
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne également. Bon, j'ai deux spectacles de collectage. Déjà, le premier que j'ai fait, c'est à partir de mes souvenirs d'enfance et collectages que j'ai fait dans le petit village où je suis né. Ça a été très très long, mais ça a commencé par le fait que quand je racontais mon enfance à mes enfants, ils avaient l'air de penser que j'étais né du temps des dinosaures à peu près. Donc quand je suis né, quand il n'y avait pas l'électricité à la maison, pas l'eau courante, enfin, etc. Donc, et finalement, j'ai décidé de prendre ça à bras le corps et d'en faire un spectacle qui s'appelle Il est fort ton café, et qui tourne toujours. Ça doit faire 7-8 ans maintenant que je l'ai fait, et j'ai de plus en plus de plaisir à le faire. Et puis après, donc, on en a fait un autre avec l'équipe du Festival de Badane, une partie de l'équipe, autour du golf ici. Le thème, c'était un petit peu retrouver la mémoire des gens qui ont travaillé sur la terre et sur la mer. Souvent, c'était paysans et ostréiculteurs ici. Ou au moins le rapport entre les deux, les travailleurs de la terre et les travailleurs de la mer. Et donc on en a fait un spectacle aussi, avec un metteur en scène, des vidéos derrière, on est deux sur scène, donc j'ai une collègue conteuse et moi, donc on a réécrit un spectacle à partir des collectages qu'on avait reçus d'une trentaine de personnes à peu près. Ça a été un très très gros travail, mais qui apporte ses fruits, qu'on aimerait bien tourner plus souvent un petit peu. Et puis autrement, bon, moi j'ai d'autres projets en cours ou dans la tête. Aux îles de la Madeleine, j'ai commencé à collecter autour des chasseurs de phoques, au Congo sur les féticheurs. Enfin, donc c'est des choses que je voudrais poursuivre. Je crois que d'abord, quand on commence à collecter, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc pour les deux premières fois, là, donc, ici entre autres, le but était d'en faire un spectacle. Sinon, si on commence à collecter pour collecter, on va partout et puis ça se termine souvent par des enregistrements qui dorment. Je connais des gens qui ont beaucoup collecté, asséné, beaucoup filmé et ça se termine par des bobines de fil rangées dans un placard. L'intérêt, c'est que, c'est ce que disent les Africains, quoi, si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, et que c'est important de savoir d'où on vient et de... Je pense que c'est un projet à plus long terme peut-être, mais ce serait de collecter dans les cités pour ces jeunes un peu qui sont troisième génération, qui n'ont pas d'histoire. Moi je pense franchement que ça explique un petit peu, il n'y a pas que ça, il y a les conditions économiques, mais que ça explique un petit peu les difficultés de ces cités, qu'ils n'ont pas la culture de leurs parents, ils n'ont pas la culture d'ici, ils ont la culture de la cité, et c'est un peu bref quand même. Et voilà, c'est important qu'on... là aussi, on ne s'est pas dû compte, mais on n'est pas sœurs aussi, parce qu'on traduit une mémoire du passé pour... au présent, pour le futur, quoi, en fait. Et ça, je trouve que c'est important. C'est passionnant, en plus, de rencontrer les gens. Même si quand on arrive chez eux, ils commencent par dire « Oh, de toute façon, moi, j'ai rien à dire. » Et puis souvent, une heure et demie après, deux heures après, on est toujours avec eux. Faire du collectage dans la région, il faut avoir un estomac assez costaud. Parce que, évidemment... quand on collecte, on ne peut pas collecter à sec.
Vous avez, quand vous parliez des cités en France, abordé une dimension un peu sociologique et politique, en tout cas dans votre façon d'aborder votre métier, votre façon de travailler. Est-ce qu'il y a une dimension politique au sens noble de l'individu face ou avec les autres, et ce rôle de passeur, justement, aussi de pas seulement de transmettre l'histoire des hommes et l'histoire du monde, mais aussi d'améliorer le quotidien des uns et des autres, ou en tout cas d'y apporter sa petite pierre. Est-ce qu'il y a cette dimension-là consciemment réfléchie dans votre façon d'envisager la chose?
Oui, c'est vrai que moi je pense que ça a une dimension éminemment politique, mais je prends l'exemple, par exemple, de ce que j'ai commencé sur les chasseurs de phoques aux îles de la Madeleine. Bon, j'ai eu notre festival de Baden est partenaire du festival des îles de la Madeleine, le festival de Conte, donc j'ai eu l'occasion d'y aller trois fois. Et à chaque fois, aux îles de la Madeleine, tout le monde parle de la chasse aux phoques. C'est un peu fondateur de la communauté des îles de la Madeleine. De ce côté-ci de l'Atlantique, on boycotte tous les produits parce que ces pauvres petites bêtes, on les tue, et puis Brigitte Bardot, et puis etc. Et ça, c'est ce qui m'a donné envie de... Alors, en même temps, pas de dire, de prendre parti... comme on pourrait prendre parti dans un débat sur le thème, mais c'est par les histoires, les récits, les faits de vie que j'ai entendus là-bas. Je pense que c'est aussi profitable pour que, ici, en transmettant ces récits, on comprenne mieux ce qui se passe là-bas et pourquoi ils le font. Et, par exemple, ça c'est un exemple, et je pense que ça c'est important. Quand on parle des féticheurs en Afrique, on a la vision souvent... en Europe, en Occident, ils sont reculés, ils sont retardataires. Et quand je compare avec ceux que j'ai entendus dans mon enfance, c'est sur les sorciers, sur les guérisseurs, il n'y a quand même pas beaucoup de différences. C'est important de faire des parallèles comme ça, je trouve.
Oui, c'est au travers du conte et des histoires qu'on se raconte, on comprend mieux aussi l'autre, les différences de l'autre et des autres peuples.
Voilà, et puis c'est pas d'une façon polémique, quoi, parce que souvent quand on entame un débat polémique, personne n'écoute personne. Chacun défend sa vérité, et c'est la vérité, quoi, pour chacun. Donc ça n'a pas grand intérêt.
Merci Michel Corignan. On rappelle, vous êtes conteur professionnel et l'ancien directeur artistique du Festival du Conte de Baden, passeur d'histoire. Merci à vous d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous et puis de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous Michel.
Eh ben merci, c'est un plaisir. On aime bien, quand on est passionné par son métier, on aime bien en parler et le faire partager aux autres. Alors Jean des Pierres, c'est un conte qui est paru dans un ouvrage de Pierre-Jacques Kesselias qui s'appelle Les autres et les miens, dans la collection Terre humaine. Donc Pierre-Jacques Kesselias, c'est entre autres l'auteur du Cheval d'Orgueil, il est donc un homme du pays Bigouden, sud de Quimper, qui a été un homme de radio, un homme de télévision, un conteur, un sociologue un petit peu, enfin qui a fait beaucoup de choses. Autour de la littérature orale.
C'est difficile à dire ce qui me plaît dans Jean des Pierres. C'est une atmosphère. D'abord, c'est un conte où finalement il n'y a pas vraiment d'histoire, où il ne se passe pas grand-chose. Mais je crois que c'est une atmosphère. Et puis, je trouve que c'est finalement un bon conte de transmission.
Au moment où commence mon histoire, Jean, c'est un petit garçon, il a quoi, une dizaine d'années, peut-être. Comme beaucoup de petits garçons de son âge, quand il a du temps libre, il passe son temps à garder les vaches. Il habite là dans une petite ferme, juste au bord de la mer, avec ses parents. Mais ça lui déplaît pas, Jean. Il n'est pas tout à fait comme les autres, un petit garçon comme les autres, il aime bien rêvasser. Il est toujours un peu dans la lune, un peu dans son monde. Il préfère ça plutôt que d'aller jouer avec ses copains, aller faire les 400 coups. Puis ce jour-là, sa maman lui dit « Écoute, Jean, tu vas aller conduire les vaches là-bas dans le pré qui est juste au-dessus de la falaise. Mais méfie-toi parce que il y a un peu d'orage. Les bêtes sont nerveuses, elles vont peut-être essayer de s'échapper, alors surveille-les bien. » Et Jean, il a conduit le troupeau dans le pré qu'on lui a indiqué. Pour mieux surveiller ses bêtes, il s'est assis juste à côté de la brèche, le dos contre le muret en pierre qui entoure le champ, qui entoure la prairie. Et souvent, il a pris son couteau dans sa poche, il a pris un petit morceau de bois, puis s'est mis à sculpter son petit bout de bois pour histoire de passer le temps. Et puis ce jour-là, dans l'après-midi, brusquement, la tempête s'est levée. Une tempête énorme. Jean, Il écoute les vagues énormes qui viennent se fracasser là sur les rochers en bas de la falaise, et puis il écoute les oiseaux de mer, les goélands, les mouettes qui crient dans tous les sens, qui jouent avec le vent, qui se laissent porter à une allure vertigineuse ou au contraire qui font du surplace, luttant contre les rafales. Et puis brusquement, il entend les pierres. Les pierres lui parlent. Il laisse tomber son couteau, il laisse tomber son bout de bois et ferme les yeux et il écoute les pierres. Oh, ça a duré longtemps. La nuit est tombée. Les vaches, elles se demandaient ce qu'elles faisaient dans le pré à cette heure-là. Habituellement, elles sont rentrées depuis longtemps. Alors finalement, elles sont parties toutes seules. Elles sont rentrées à l'étable. La maman de Jean, quand elle a vu ses bêtes arriver sans son fils, elle a couru jusqu'au pré. Elle a trouvé là, toujours à la même place, assis, le dos contre le muret en pierre, les yeux fermés, un grand sourire aux lèvres. Elle a secoué, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es endormi? Et Jean lui a dit, chut, j'écoute les pierres me parlent. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, cette brave dame? Elle a dit, oh, je savais bien que mon fils n'était pas tout à fait comme les autres, mais après tout, bref, il est gentil, il fait de mal à personne. Et elle n'a plus jamais parlé de cette histoire depuis. Mais en tout cas, à partir de ce jour-là, dès que le vent se mettait à souffler en tempête, qu'il vienne du nord-roi, qu'il vienne du sur-roi, Jean, il est dehors, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Et il parcourt tous les nombreux murets en pierre qui bordent les chemins, qui entourent les parcelles de terrain, et il écoute. Et s'il entend une pierre qui se plaint au milieu du mur, eh bien il démolit le mur. Oh, parfois il suffit de la changer de sens, parfois il vaut mieux l'enlever, en mettre une autre à sa place. Et puis il reconstruit le mur, et puis il écoute chanter, comme une véritable symphonie. Bah, dans le pays, on a fini par l'appeler Jean des Pierres. Je dis, bon, il est un peu bizarre, il est un peu loin du bourg, mais bon, il est gentil, il fait de mal à personne. Enfin, on a dit ça jusqu'au jour où il s'est arrêté. Là, sur le bord de la plage, il s'est assis sur un rocher, et puis tout autour, il y avait les pêcheurs qui étaient là, en train de gratter leur barque, réparer leur filet, et il s'est mis à leur parler. Il leur a parlé longtemps, il leur a parlé tellement que ils ont cessé leur travail. Il y en a même qui ont oublié de bourrer ou de rallumer leur pipe. Même le Julien, alors qu'on a entendu midi sonner au clocher du village, lui qui, au premier coup de l'Angélus, il disait aux autres, « Allez, on va laisser en jeter un petit avant d'aller à la soupe. » Ce jour-là, il n'a rien dit. Il est resté écouter Jean des Pierres, la bouche ouverte. Ce sont les femmes qui sont venues chercher les hommes. « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? La soupe est froide ?» On dit, chut, on écoute Jean des Pierres. Il ne faut pas se moquer de lui. Il y a des choses que personne d'autre que lui ne connaît. Mais ce qu'il aura dit ce jour-là, aucun d'entre eux ne l'a répété, donc je ne peux pas vous le dire non plus. Et puis le temps a passé. Jean des Pierres a grandi. Et on venait le chercher quand quelqu'un avait un muret à faire. Un jour, c'est Yves. Il lui dit, écoute-moi bien, Jean. Tu sais, ma grande parcelle, j'aimerais bien faire un mur au milieu, la séparer en deux. Tu viendras nous aider? Tous les voisins seront là. Ben, bien sûr que j'irai vous aider, dit. Alors d'accord, je t'attends lundi matin. Oh, pas lundi. Lundi, il n'y aura pas de vent. Je ne pourrai pas travailler. Par contre, je sais que le vent va se lever jeudi dans la matinée. Alors dis aux autres d'être là jeudi matin. Et même en attendant, tiens, tu peux charroyer les pierres qu'il y a auprès du Rordu, là-bas, du Rocher Noir, parce que ces pierres-là, elles m'ont dit qu'elles étaient prêtes à rentrer dans un mur. Et ça s'est passé comme ça. Le jeudi matin, le vent s'est mis à souffler, tous les voisins sont là, et Jean des Pierres passe d'un groupe à l'autre, il écoute, il dit, mais pas celle-là comme ça. Tu l'entends pas qui se plaint? Enlève-la, tu la mettras plus loin. Tiens, celle-là ira juste. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est bien. Tourne celle-là pour voir. C'est quand même mieux, non? Mais enlève cette petite-là. Elle empêche l'air de circuler dans le mur, il ne pourra plus chanter. Et ça a duré comme ça jusqu'au samedi soir. Le samedi soir, le muret est fini, le vent n'est toujours pas calmé, et tous ceux qui ont aidé à construire le mur sont restés l'écouter, chanter comme une véritable symphonie. Et puis le temps continue à passer. Jean des Pierres est devenu plus vieux. Et souvent, quand on est plus vieux, on perd un peu l'oreille. Et il n'a plus entendu chanter les pierres. Il est devenu triste. C'est Français, un autre de ses voisins, qui vient le voir un jour et lui dit, « Jean, j'aimerais faire un mur. Tu sais, dans mon pré, là où il y a la fontaine en haut, et puis le petit vallon qui descend vers la mer. » Mais Jean lui a dit, « Mais c'est pas un endroit pour faire un mur. Le vent est trop mauvais dans ton petit vallon, là. Le mur tiendra jamais. » Francis, il a insisté, il a dit, « Mais j'ai besoin de ce muret, c'est pour empêcher mes bêtes de tomber à la mer. » Alors d'accord, a dit Jean, « Je vais te le faire, ton mur, mais je vais le faire tout seul. Apporte-moi les pierres et je le ferai seul. » Il a même construit sa petite cabane en bois, là, auprès de la fontaine, pour rester dormir sur le chantier.
Francis lui a apporté les pierres et il s'est mis au travail. Oh, ça a été long. Quelquefois, le matin, les gens passaient sur le chemin côtier pour aller à leurs affaires. Jean avait construit 1 mètre, 2 mètres. Et puis quand il repassait dans l'autre sens, quelques heures plus tard, il avait tout démoli. Et il recommençait. Comme ça, son chantier, il a duré quelques mois peut-être. Et enfin, un soir, il est terminé. Il n'est pas encore rentré chez lui ce soir-là. Il est resté dormir dans sa petite cabane en bois. Et ce soir-là, la tempête s'est déchaînée. Et au milieu de la nuit, Jean Despierres, il a entendu comme un craquement. Il s'est levé, il est sorti de sa cabane. C'est là-bas, là-bas au fond du vallon, là où le vent est si mauvais. À la lueur diffuse de la nuit, il voit le mur qui commence à pencher. Et il court, il s'arc-boute contre le mur pour l'empêcher de tomber. Mais le vent est plus fort que lui et il se retrouve enseveli sous les pierres. Le lendemain matin, quand les gens du pays sont arrivés, on a enlevé les pierres une à une. On a trouvé Jean, dessous. Oh, les pierres ne lui avaient même pas fait mal, même pas la moindre égratignure. Mais quand il s'est levé, cette fois-là, il avait complètement perdu la raison. Dégagé des pierres, il n'a regardé ni à droite ni à gauche. Il est parti droit devant lui, en serrant contre sa poitrine un gros galet tout rond. Et à partir de ce jour-là, on l'a vu marcher sur les grèves, sur les petits chemins de la campagne. Toujours sa pierre serrée contre son cœur. Il lui parle comme si c'était son bébé. Puis un matin, à force de vieillir, on finit par mourir. Un matin, on a trouvé Jean Despierres, mort, dans son lit. Il avait toujours son galet serré contre sa poitrine. On n'a même pas essayé de le lui enlever. On l'a mis comme ça, avec sa pierre dans le cercueil. Et puis on l'a enterré dans le petit cimetière du village. Et si un jour vous passez par ce pays-là, et si le vent souffle en tempête, qu'il vienne du Noroît, qu'il vienne du Suroît, et si vous entendez les murs en pierre chanter comme des véritables symphonies, vous saurez que vous y êtes, que c'est le pays de Jean Despierres.
Nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans, encore gamine, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir, les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur
travaillent n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent vivent dans la misère.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces fameux se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces fameux se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les fameux sont fiers.
Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les fameux sont fiers.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots.